Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citire. Să luăm aminte. Zisa Domnul, precum vreți să vă facă voi oamenii, faceți și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe dânșii. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii același lucru îl fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, voi însă să faceți binele și să dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb, și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai Celui Preaînalt. Pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Luc. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en sera-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez, sans rien d'attendre en retour, car votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous donc miséricordieux, comme l'est aussi votre Père des cieux.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să vorbesc acum, o să citesc un text în franceză și o să reiau cuvintele mele în română la sfârșitul slujbei, ca să evităm traducerile. Donc je vais parler maintenant en français, en fait je vais lire un text qui est très lié de cet évangile d'aujourd'hui, et après je vais reprendre en roman à la fin de la liturgie les idées de ce qu'on va lire maintenant. Donc, comme vous avez vu, ce fragment de l'Évangile qu'on a lu, qu'on vient de lire, est un fragment qui parle beaucoup de l'attitude qu'on peut avoir envers les autres, une attitude qui est opposée, opposée à notre manière de penser, donner aimer les ennemis, donner sans attendre un retour et faites toutes les choses qui sont capables d'établir une relation avec ceux qui sont loin de nous. En lien avec cet évangile, je voudrais vous lire un petit fragment d'un livre qui a été écrit par un évêque orthodoxe, Antoine Blum, et qui parle un peu sur le manque de réponses à nos questions, à nos prières. Je vais donner lire à ce texte. Dans l'épisode de la Cananéenne, nous voyons le Christ refuser, au moins au début, de répondre à une prière. Nous avons ici le cas d'une prière soumise à rude épreuve. La femme cananéenne demande quelque chose d'absolument normal. Elle se présente avec une foi entière et ne dit même pas « si tu peux » à Jésus. Elle se contente de venir sûre que le Christ peut guérir son enfant et qu'il le voudra. À toute cette foi, la réponse du Christ est « non ». Ce n'est pas que la prière ne soit pas digne ou la foi insuffisante, mais tout simplement que la personne n'appartient pas à la bonne catégorie. Le Christ est venu pour les Juifs, dit l'Évangile, et cette femme, c'est une païenne. À la première vue, il dit qu'il n'est pas venu pour elle. Mais écoutez l'insistance des femmes. Elle insiste, disant, « Oui, je ne suis pas de la bonne race, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et elle se tient près de Christ, confiante en l'amour de Dieu, en dépit de ce que Dieu lui dit, humblement confiant, en dépit de la raison que le Christ lui donne. Elle n'invoque même pas l'amour de Dieu, elle en appelle simplement à son expression quotidienne. « Je n'ai pas droit à une miche, donne-moi seulement des miettes. » Le refus clair et tranchant du Christ éprouve sa foi et sa prière est exaucée. Combien souvent nous implorons Dieu en disant « Si tu peux, interviens dans ma vie. » Ô Dieu, si tu le veux, si tu le peux, tout comme le Père dit au Christ, tes disciples n'ont pas été capables de guérir mon fils. Si tu peux quelque chose, viens à notre aide. Le Christ répond par un autre signe. Si tu crois, fût-ce très peu, tout est possible à celui qui croit. L'homme alors déclare, je crois, viens en aide à mon peu de foi. Les deux si sont corrélatifs, car s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas non plus de possibilité pour Dieu de s'intégrer à la situation. Le fait que l'on se tourne vers Dieu devrait être une preuve de foi, mais il ne l'est que dans une certaine mesure. Nous croyons et nous ne croyons pas dans le même mouvement, et la foi manifeste sa vitalité en triomphant de ses propres doutes. Lorsque nous disons « oui, je doute, mais je crois en même temps dans l'amour de Dieu », plus que je ne me fie à mes propres doutes, alors il devient possible à Dieu d'agir. Mais si l'on croit en la loi et non en la grâce, si l'on croit que le monde tel que nous le connaissons, avec ses lois mécaniques, est mécanique parce que Dieu a voulu qu'il ne soit qu'une machine, alors il n'y a pas de place pour Dieu. Pourtant, l'expérience du cœur, comme la science moderne nous enseigne que cette loi absolue à laquelle croyaient les hommes du 19e siècle et du 20e siècle n'existe pas. Chaque fois que, par la foi, le royaume de Dieu est recréé, un lieu existe où les lois du royaume peuvent s'exercer, c'est-à-dire que Dieu peut intervenir avec sa sagesse, sa capacité d'introduire le bien au sein d'une situation mauvaise, sans pour autant bouleverser le monde entier. Notre « si » se réfère moins à la puissance de Dieu qu'à son amour et à sa compassion. Et la réponse de Dieu, « si tu peux croire en mon amour, tout est possible », signifie que nul miracle ne peut se produire si, au moins de façon naissante, le royaume de Dieu n'est pas présent. Un miracle n'est pas rupture des lois de ce monde déchu. C'est le rétablissement des lois du royaume de Dieu. Le miracle ne se produit que si nous croyons que la loi dépend non pas de la puissance, mais de l'amour de Dieu. Nous savons bien que Dieu est tout-puissant, mais aussi longtemps que nous pensons qu'il ne se soucie pas de nous, nul miracle n'est possible. Pour l'accomplir, Dieu devrait imposer sa volonté, et cela, il ne le fait pas jamais. Car au cœur de sa relation avec le monde, même déchu, il y a son absolu respect pour la liberté humaine et les droits de l'homme. Quand vous dites « Je crois » et c'est pourquoi je me suis tourné vers toi, cela veut dire « Je crois que tu le voudras, qu'il y a en toi de l'amour, ô mon Dieu, que tu es effectivement concerné par la moindre situation individuelle. Du moment que ce grain de foi existe, la relation correcte s'établit et le miracle devient possible. » À côté de ce genre de « si » lié à notre doute en l'amour de Dieu et qui est mauvais, il existe une légitime catégorie de « si ». On peut dire « Je demande cela si c'est conforme à ta volonté » ou « Si c'est pour le mieux » ou « S'il n'entre aucune intention secrète mauvaise en moi lorsque je fais cette demande », etc. Tout ceci sont plus que légitimes, car il implique une attitude de défiance envers nous-mêmes. Et toute prière de demande devrait être une prière avec un « si ». Comme l'Église et le Christ continuaient à travers le temps et l'espace, toute prière chrétienne devrait être la prière du Christ, bien que cela implique une pureté du cœur qui nous fait défaut. Les prières de l'Église sont les prières du Christ, spécialement dans le canon de la liturgie, où c'est d'un bout à l'autre le Christ lui-même qui prie. Mais toute autre prière par laquelle nous demandons quelque chose en rapport avec une situation concrète est toujours tenue aussi. Dans la plupart des cas, nous ne savons pas quelle aurait été la prière du Christ dans cette même situation. Aussi, introduisons-nous le « si » qui signifie que, pour autant qu'on puisse en juger, pour autant que l'on connaisse la volonté de Dieu, voilà ce que nous souhaitons qu'il arrive pour répondre à sa volonté. Mais le « si » signifie également « Je mets sur ces mots mon désir de voir advenir le meilleur ». Et c'est pourquoi tu peux modifier cette demande concrète dans le sens que tu choisiras, mon Dieu, tenant compte de mon intention, de mon désir que ta volonté soit faite, même si c'est manquer de sagesse de déclarer moi-même comment je voudrais qu'elle se fasse. Nous prions parfois pour quelqu'un que nous aimons, qui aurait besoin d'un secours quelconque et que nous sommes impuissants à aider. Bien souvent, nous ne savons pas ce qu'il faudrait. Nous ne trouvons pas les mots pour aider même ceux qui nous sont les plus chers. Il arrive que nous ne puissions rien faire d'autre que demeurer silencieux, alors que pourtant nous donnerions notre vie pour eux. Dans cet esprit, nous pouvons nous tourner vers Dieu, lui confier la situation et dire « Ô Dieu, qui sait tout et dont l'amour est parfait, prends cette vie dans tes mains et fais ce à quoi j'aspire sans pouvoir y arriver. » La prière étant un engagement, nous ne pouvons prier en toute vérité pour cela que nous ne serions pas prêts à aider nous-mêmes. Soyons prêts à entendre avec Isaïe la parole du Seigneur. Qui enverrai-je? Quel sera notre messager? Et à répondre nous-mêmes, mais voici, envoie-moi. Beaucoup sont consternés à l'idée de prier pour les morts. Et ils se demandent à quoi cela peut bien servir et ce qu'on peut espérer par là. Le destin de défunts peut-il être changé si l'on prie pour eux? La prière convaincra-t-elle Dieu de commettre une injustice et de leur accorder ce qu'ils n'ont pas mérité? Notre prière, même pour les défunts, est un acte de gratitude et d'amour, dans la mesure où notre existence prolonge ce pour quoi nous avons combattu, et ce pour quoi ceux qui sont défunts ont combattu. Si vous croyez que prier pour les vivants soit une aide pour eux, pourquoi ne prieriez-vous pas pour les morts? La vie est une puisque, comme le dit Saint Luc. Ce n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. La mort n'est pas une fin, mais une étape dans la destinée humaine, et cette destinée n'est pas figée à l'instant de la mort. L'amour qui exprime notre prière ne peut être vain. Si l'amour avait un pouvoir ici-bas, mais n'en avait plus après la mort, cela contredirait tragiquement ce mot de l'Écriture. L'amour est fort comme la mort. Et l'expérience de l'Église, pour qui l'amour est plus puissant que la mort, puisque le Christ a vaincu la mort par amour pour les hommes. Je m'arrête ici avec ce texte un peu difficile, en vous soulignant quelques idées. Notre prière doit être imprégnée par l'amour. On doit commencer nos prières avec l'amour. Si on prie pour nos amis, si on prie pour nos ennemis, il faut mettre dans nos prières cette graine d'amour. Cette capacité impossible parfois pour chacun d'entre nous de prier avec amour pour les autres. Une prière n'est pas une prière si c'est une prière qui n'a pas d'amour en soi-même. Parfois, le prêtre reçoit des demandes des autres, des demandes un peu, comment est-ce que je peux dire, malicieux même, envers les autres. Jamais un prêtre ne peut pas prier pour qu'une chose mauvaise arrive à quelqu'un. Jamais. Et ça, c'est valable pour tous. Vous ne pouvez pas prier quand chose mauvaise arrive à quelqu'un. Vous êtes obligé, en tant que chrétien orthodoxe, de prier avec l'amour. Et l'Évangile d'aujourd'hui est l'Évangile qui vous parle et qui vous donne les lignes directrices de votre prière. Une prière imprégnée par l'amour. Je m'arrête ici en vous conseillant de relire cet Évangile qui se trouve dans l'Évangile écrit par Saint Luc, au sixième chapitre, et de pratiquer ce que cet évangile dit. Vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Amen. Que Dieu nous bénisse.